marche de l'histoire, du lundi au vendredi sur France Inter à 13h30.
Et vous, que faites-vous là, me regarder les bras ballants?
C'est au sujet.
Eh bien, parlez, voyons, on ne s'amuse pas ici, on travaille.
Vous avez de la chance, c'est jour de visite aujourd'hui. Ah. Monsieur Lebrun, que voici, vous accompagnera.
La grande transhumance.
Endraillons-nous dans un sillon de leur histoire, les fans, tant que le berger nous offre son oc.
Oc, oui, en languedocien.
Pays des rayoles.
Des cossenardes, des garrigues, des rouges du Roussillon. 2 mois à 120 jours pour estiver.
On retrouve des traces écrites de transhumance chez les hospitaliers de Saint-Gilles-du-Gard.
D'autres parlent de l'âge néolithique. Et les bergers?
Ils te diront depuis toujours.
Au fait, tu connais l'histoire de la brebis privée de transhumance parce qu'elle devait agneler?
Après la naissance de ses baissons, elle fuga de la pension où elle avait été confiée par son berger.
Elle étouffa ses sonnailles pour que personne ne l'entende.
On la retrouva après des jours de draille au pied de son berger avec ses nouveaux-nés.
Ok.
Exergue produit au moment de l'inscription des paysages agro-pastoraux des Cévennes et des Causses au patrimoine immatériel de l'humanité. Alors, puisque l'UNESCO a donné son label, Endraillons-nous. La draille, c'est un chemin façonné par le tricotage d'une infinité de pas, ceux des hommes et ceux des bêtes qui, poussés par la sécheresse en bas, montent en altitude chercher leur pâture. Le mot de transhumance n'apparaît en français que fin 18e, début 19e, venu de l'espagnol, mais dans le Languedoc, c'est une pratique immémoriale. De nomadisme à s'agit, disait Fernand Braudel. Une pratique qui remonte à 4000 ans au moins. Son objectif est de faire profiter le troupeau au double sens du mot, l'engraisser, l'aider à se reproduire. La grande transhumance a connu son apogée au milieu du 19e. Entre Lozère et Aigoual, l'été se tenait quelques 100 000 brebis. Encadrée par des bergers que les sédentaires regardaient volontiers comme des sauvages, elle fut ensuite accusée de tous les maux de l'archaïsme. Le maillage des propriétés par les clôtures, les règlements vétérinaires, la surveillance des fonctionnaires, disent les bergers, ont gêné la transhumance et surtout, les nouveaux équipements routiers l'ont rendu impossible autour de beaucoup de ces nœuds. Pourtant, elle résiste, elle se met même en scène au moment du départ, en juin, comme du retour. Les fêtes de la transhumance ont de plus en plus de succès. Et puis, les bergers eux-mêmes ont changé, ils sont entrés dans la catégorie hautement considérée des gestionnaires de la biodiversité. La transhumance sculptait les paysages, elle s'inscrit maintenant en eux comme en creux. Elle s'incline dans le sanctuaire des parcs naturels. Son nouvel affichage, c'est le soin. Soin des traditions, des espaces et des espèces, à condition que le loup ne revienne pas troubler ce nouvel équilibre.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Anne-Marie Brisebard, bonjour.
Bonjour.
Vous publiez un très beau livre chez Delachaux et Niestlé sur tous les chemins de transhumance. Mais on va surtout parler du sud-est du Massif central aujourd'hui, des Causses et des Cévennes. Vous y avez reçu comme un coup de foudre.
Tout à fait,
il y a près de 50 ans.
En 69, lors d'un été où j'y allais, pas pour voir la transhumance, mais ça m'a frappé ce rapport entre les hommes, leurs chiens, leurs brebis meneuses et le reste du troupeau.
Alors vous êtes occupé de beaucoup d'autres animaux, des brebis dans beaucoup d'autres continents, mais vous avez gardé un attachement particulier aux Causses et aux Cévennes. Il est vrai que vous y avez rencontré de hautes personnalités singulières. Vous vouliez que je cite, pour commencer, un ancien berger qui ensuite a eu beaucoup de responsabilités culturelles, Jean Blanc, et qui dit ceci, je le lis. Depuis des millénaires, vous entendez bien, tous les ans, il a fallu conduire les bêtes au pâturage d'été, redescendre au territoire d'hiver, il a fallu traverser les pays pendant des semaines de marche, qu'ils soient amicaux ou hostiles, en bonne fortune ou bien en guerre, coupés de frontières ou séparés de religions. Je ne sais comment les anciens ont fait, mais il a fallu le faire.
Alors Jean Blanc, c'était un ancien berger, mais alpin. Mais vous savez, la communauté pastorale, elle est nationale, internationale. Et quand des éleveurs et bergers se rencontrent, même par-delà les difficultés de langue, ils se comprennent.
Un homme vous a marqué beaucoup, qui s'appelle Yves Hébrard, dont vous publiez la photo de la biasse dans votre livre chez Delachaux Agnès-Lé. Alors, c'est un chef de bête, aurait dit Jean Giono.
C'est un entrepreneur de transhumance, c'est-à-dire c'est un berger, un éleveur spécialiste. Il avait un gros troupeau de Cosnard des Garrigues. Et l'été, il prenait en charge les bêtes d'autres éleveurs qui, eux, étaient aussi agriculteurs et qui, l'été, ne pouvaient pas garder leur troupeau puisqu'ils devaient s'occuper de leur culture.
Parce que c'est une des raisons de la transhumance, c'est qu'il faut tenir les bêtes à l'écart, en bas des cultures voilà. qu'elles pourraient dévorer.
Voilà, en particulier dans la garrigue, quand il n'y a plus d'herbe et qu'il y a les vignes à côté, qu'il y a des champs, pour empêcher les bêtes d'y aller, ce serait un tour de force. Donc, les faire monter dans les montagnes proches, à pied toujours, pour qu'elles trouvent l'herbe qui a reverdi ou qui est débarrassée de la neige, eh bien ça permet de ne pas avoir des soucis avec les agriculteurs. Locaux.
La caravane laitière, lainière, organisée par le chef des bêtes, elle va voir des affluents la rejoindre.
Alors il y a on monte par des drails. Alors il y a les drails principales qu'on appelle drails d'Aubrac, du Gévaudan et de la Margeride. Et puis vous avez des drails adjacentes. Et quand le troupeau monte, peu à peu, il se grossit comme un flot de tous les petits troupeaux qui viennent des vallées adjacentes. Et l'entrepreneur de transhumance, à la foire ou au marché de printemps, a passé accord avec tous ces gens pour leur dire « oui, je prendrai vos bêtes ». Ils ont dit combien de bêtes il y aurait, quelle serait la marque qu'il y aurait sur ces bêtes. Alors maintenant, c'est assez facile parce qu'on a le téléphone, donc on peut même changer la date de la montée s'il pleut beaucoup. Mais au début, quand j'ai commencé à transhumer avec eux, comme il n'y avait pas le téléphone portable, eh bien, même si le jour fixé pour partir, eh bien, il y avait de l'orage, mais on partait quand même.
Alors, comment on les reconnaît, les bêtes des différents affluents, des différents propriétaires? Il y a les pompons, il y a la tonte, il y a des cygnes.
Alors, la tonte a lieu à la fin du printemps, mais ce que l'on fait, c'est qu'on marque les bêtes à la peinture, sur la croupe. En général, ces marques, qui sont des marques en fer forgé, sont des marques qui s'héritent dans la famille. Ce sont des initiales, ce sont des symboles. Et souvent aussi les colliers qui vont supporter les sonnailles sont peints de couleurs différentes et le berger a la possibilité, en regardant le troupeau, de savoir quelles sont les bêtes qui appartiennent à tel ou tel propriétaire.
À les colliers qui portent les sonnailles. Vous allez entendre messieurs Bazadjet de l'Hospitalet, Gras que vous avez bien connu, et Pibaro que vous avez très bien connu aussi.
Quand vient la saison de la monte, ben vous savez, il leur tarde de monter, c'est vrai. Quand vient le mois de juin, ils ne parlent que de la montée, comme quand ils descendent aussi. Et la bête aussi, quand ça vient sa période de monter en montagne, elle, 8 ou 10 jours avant, la bête le sent.
Ensuite, on leur met une grosse cloche, qu'on appelle ça un drayao. Au départ, ça fait un tintamarre, un son vraiment qui a ensourdi. Alors c'est la fête, hein. C'est très agréable à voir, et très joli à entendre aussi.
Vous mettez les sonnailles?
Oui. Alors, cette année, mon père est mort, alors il y a de grandes chances que je ne les mettrai pas. Mais habituellement, oui, les sonnailles, j'aime bien les mettre. Ça les entraîne et j'aime ce bruit, moi.
Il y a un signe de deuil.
Ça me donne mal à la tête, mais moi, ça ne me donne pas.
Et un signe de deuil à cause de la mort de votre père, vous ne les mettrez pas?
Oui. Oui, je n'ai pas mis que ma mère est morte. Pas envie de les mettre du tout cette année.
France Culture 1978, et maintenant monsieur Pibaro est mort, lui aussi. Que vous informiez régulièrement, vous parlez de la communauté des éleveurs du monde, des activités des éleveurs d'ailleurs.
Oui, sur la fin de sa vie, Jean Pibaro était aveugle, donc il restait dans sa maison, il était seul, et j'allais le voir dès que je pouvais, et quand j'avais fait un voyage, et tous les 15 jours à peu près, je l'appelais et je lui racontais les éleveurs d'ailleurs, quand j'allais au Maghreb, en Afrique de l'Ouest, au Québec, il voyageait dans sa tête, lui qui ne pouvait plus bouger.
Mais les Français d'aujourd'hui ou les touristes étrangers aiment beaucoup voir les rassemblements marqués par les sonnailles. Il y a beaucoup plus de monde au fait de départ, peut-être qu'autrefois.
Oui,
le même monde.
C'est pas le même monde parce que des fêtes, il y en a toujours eu au moment de la montée en transhumance, mais elles étaient spontanées. C'était les gens des villages traversés, c'était les gens qui savaient que sur la draille, au-dessus de chez eux, passait le troupeau, et quelquefois ils montaient, ils nous montaient du café, au moment du déjeuner, ils venaient se joindre aux bergers, alors que maintenant ce sont des fêtes organisées.
Les meneuses, c'est qui, vous allez nous expliquer, c'est comme aux Folies Bergères. Les meneuses ont un rôle particulier. Un berger peut se tromper, éventuellement, s'il était méché, dans son parcours sur la draille, et les meneuses l'arrêtaient, au fond.
Alors, les meneuses, ce sont des brebis qui ont été élevées au biberon pour la plupart, qui sont familiarisées, même presque humanisées, je dirais, qui la plupart du temps ont un nom. Et j'ai le souvenir, c'est après un déjeuner, quand on est sorti au soleil, le berger de tête, il a pris un petit coup, il avait bu un petit coup. Et il a commencé sur un bout de route, et puis après, il y avait une draille qu'il fallait prendre, et lui, il a continué tout droit. Et les meneuses se sont arrêtées. Elles regardaient le berger, elles regardaient la draille, et au bout d'un moment, pas très longtemps, quelques mètres, le berger s'est aperçu qu'il était tout seul, enfin que ça suivait pas, et les meneuses lui ont montré le chemin.
Alors, la fermeture de l'espace rend maintenant quand même difficile, même pour les meneuses et les bergers les plus expérimentés, la reconnaissance de certains parcours anciens. Je vous propose un pas de côté, mais Franck Oliver, qui a préparé cette émission, a aimé ce documentaire Aléa, France 3, Gérard Martin, avec Laurent Larmet. Alors, Laurent Larmet, il a des bovins. Bon, mais la transhumance bovine, ça existe aussi. Et il est à la recherche, il y a quelques années, d'une bonne pâture, mais ça a été un véritable parcours du combattant de plusieurs mois, en fait, avant qu'il ne la trouve, tant il a rencontré d'obstacles.
Et on s'est retrouvés de l'autre côté, dans un verger de pommes. Ça leur a plu. Et le problème, c'est que il y a une vache qui s'appelait Rocky et qui s'est empaumée, on dit. C'est-à-dire que le coup classique, elle mange une pomme entière qui reste bloquée à l'entrée de l'estomac. Et donc, il faut absolument faire passer la pomme. Le dernier gros obstacle, ça a été d'abord un terrain de chasse, clôturé avec des grillages de 2 mètres de haut. Alors, on a dû batailler à couper des grillages la nuit, avec la cisaille. Après, on a refermé quand même. On a bouffé l'herbe des mecs. Et ensuite, on a cisaillé la clôture pour ressortir. Devant la chasse, il y avait un camp militaire, le camp militaire de la Manon. On a traversé le camp militaire la nuit. On est passé au milieu des bâtiments des mecs. Heureusement, ils se sont aperçus de rien. Sinon, les vaches auraient fini la nuit au poste, je pense. On avait 25 vaches et 12 veaux. On a la borgne qui nous a fait un veau aussi. La borgne, c'est une vache. On s'est trouvé sur des voies vraiment fréquentées, quoi. Surtout pour la traversée de la digue, ça dure une paire de kilomètres. Et les gens, ils roulent vraiment, ils savent pas ce que c'est du bétail, ils en ont jamais vu, ils veulent pas en voir. Et on les dérange, quoi.
Et ça finit avec les gros culs, voire les chauffards. Donc, ça devient très très difficile. C'est pour ça qu'on a institué la transhumance par train vers les Alpes.
Puis par camion. Les Cévenols ont une chance. Ils sont au pied de la montagne et il reste beaucoup de drailles. Ils ont souvent de chemin sur la route. Mais quand ils sont sur la route, il y a les gens qui arrivent en face d'eux, ça c'est pas très compliqué, le troupeau passe. Par contre, ceux qui arrivent par derrière, quand il faut faire passer sur une petite route un troupeau de 1200 ou 1500 bêtes, ça n'est vraiment pas facile. Les touristes souvent s'arrêtent, eux, et ils sont tellement contents de voir, ils photographient. Par contre, c'est les gens du coin, quand ils partent travailler par exemple, ils sont quelquefois un petit peu impatients.
Et puis la traversée des villes aussi est difficile.
Alors là, ça pose pas vraiment de problème, la traversée des villes.
Les employés municipaux disent, mais les moutons, c'est des poids lourds, donc il faut qu'ils prennent les déviations.
Ah non, il y a des endroits où on passe au milieu des villages. Alors les femmes, souvent, elles sont avec leurs balais, elles empêchent que les moutons broutent les géraniums. Mais tout le monde, en Cévennes, les gens aiment le passage des troupeaux.
Alors vous parlez des femmes, tenez, maintenant on va essayer d'épouser le point de vue des femmes de berger. Alors Valérie Estaraï a eu la chance d'entendre dans une interview à laquelle elle participait, Amalia Rodriguez parler en français. Amalia Rodriguez chantait en français aussi.
En village à flanc des roches, quatre murs vêtus de lierre, des broussailles qui s'accrochent, quelques chèvres familières. Ma maison est isolée, tout au fond de la vallée. C'est lui qui m'a pour compagne, hébergé dans la montagne. Il chante sa peine. Oh,
La marche de l'histoire. France Inter, Jean Lebrun.
De l'absence des femmes dans, c'est notre sujet aujourd'hui, la grande transhumance avec Anne-Marie Brisbard qui a notamment publié Chemin de transhumance chez Delachaux et Niestlé. Et une femme ethnologue chez les bergers, qu'est-ce qu'ils vous ont fait faire ?
Beaucoup de choses, conduire des voitures improbables, balayer le parc, aider à un agnelage parce que j'avais des mains plus fines que le berger, qu'il fallait déplier une patte qui était pliée. Voilà, j'ai dû faire mes preuves. Ils parlaient en occitan, je comprenais pas mal, mais quand ils voulaient se moquer de moi, ils arrivaient, je comprenais pas, donc je demandais qu'on me traduise.
Question faussement naïve dans son excellent français de Jacques Pogam, il y a près de 40 ans, à Monsieur Bazadjet, à l'Hospitalet.
Mais où dort le berger ?
Dans une cabane. Le berger, des petites cabanes, a une place. Parce que dans les gros troupeaux transhumants, vous savez, entre 15 et 1800 mètres, il y a deux bergers en général. Deux. Alors, comme on parque souvent près d'un pré, d'un blé ou d'un champ de pommes de terre, le berger, même la nuit, reste à côté de ses bêtes. Il couche à côté de ses bêtes avec une cabane qui sur roue ou sans roue, mais enfin, il a changé de place à mesure qu'il change le parc.
Une cabane sur roue ?
Oui. Sur roue. Tout en ne sont pas sur roue. On a bien, mais enfin, il y en a qui sont sur roue quand même. J'en avais deux, moi, mais maintenant, elles sont finies parce qu'on ne parque plus. C'est à peu près tout ce que je peux vous dire.
C'est beaucoup mieux maintenant, les maisons de l'estive. Oui, on peut même y mettre des femmes.
Maintenant, la famille peut monter, puisque grâce au Parc National des Cévennes, entre autres, les bergers ont des cabanes avec même l'énergie solaire, ou alors des maisons, puisque un certain nombre des bergers qui transhument Cévennes sont des anciens de la montagne qui ont commencé par une transhumance inverse en bas et qui remontent dans leur propre maison.
Question naïve, vous parliez de balayer. Qu'est-ce que ça veut dire balayer ?
Alors, comme on parque les brebis toutes les nuits dans des parcs en claies de bois, qui sont mobiles, puisqu'autrefois on faisait la fumature des champs en plaçant directement le parc sur les futurs champs à ensemencer, contre le pâturage d'un type de terrain qu'on appelait les indivis, et qui étaient des propriétés privées à usage collectif. Donc, donc ces parcs, on les balaye pour. Maintenant, quand comme ils sont fixes, on les balaye. Et ce fumier, c'est une richesse et ça part vers les champs d'asperges d'aigues mortes. Bon, c'est une vraie richesse.
Et qu'est-ce que ça veut dire donner le bon biais et faire tourner le parc?
Alors, donner le bon biais, c'est amener les bêtes dans le bon sens, hein, pour que le troupeau parte dans le sens où le berger veut faire pâturer ses bêtes, hein, toujours avec les meneuses devant qui entraînent le troupeau. Tourner le parc, ben, c'était à l'époque de ces fameuses nuits de fumature, quand il s'agissait de, quand on dormait dans la petite cabane, il y avait une cabane qu'on appelait la cabane cercueil, qui avait la forme d'un cercueil avec des brancards et qu'on déplaçait en même temps que le parc et avec un petit volet, et de là le berger regardait les bêtes qui étaient dans le parc et il s'enroulait dans sa cape qui quelquefois était mouillée, et résultat il y en avait beaucoup des anciens bergers que j'ai connus qui étaient pleins de rhumatisme.
L'œil du berger en graisse.
Alors l'œil du berger engraisse le troupeau. Moi j'ai longtemps cru que ça voulait dire que le berger trouvait son troupeau plus beau que les autres. Et mais non, ça veut dire qu'un troupeau n'est jamais mieux gardé que par son berger, et qu'il pâture tranquillement quand il est avec son berger. Il est calme.
Dans un paysage ordonné.
Voilà. Et il a confiance dans son berger. C'est un rapport entre l'homme et ses bêtes qui est un rapport de confiance.
Et puis l'œil du berger repère la brebis qui peut être malade.
Il faut une certaine compétence là quand même. Vous savez, la bête est sujette à... Il faut la surveiller. À pas mal de maladies aussi qu'il faut soigner, qu'il faut... Le berger a constamment du travail. Une bête qui boite, qui a du piétin, qui a de la gale. Tout ça, c'est le rôle du berger de la soigner.
Qu'est-ce que c'est que le piétin ?
Le piétin, c'est une sorte de panerie dans le sabot. Alors, il faut entailler la corne, bien nettoyer et traité, il y a plusieurs traitements là. Mais enfin, autrefois, c'est surtout on traitait surtout au sulfate de cuivre.
Il y a Clémentine, elle s'était chopée une écharde entre les deux sabots. Elle était couchée, j'en profite pour la... J'y attache deux pattes pour pouvoir lui faire un emplâtre. Et d'habitude, elle s'est laissée faire tranquillement et tout. Et là, je ne sais pas qu'est-ce qui lui a pris comme idée. Elle a voulu se relever, elle m'est tombée dessus, elle m'a cassé le pied.
Alors après, Monsieur Vazadjet, c'est Laurent Larmet qui n'a que des malheurs. Aléa, France 3, au début des années 2000. Les traitements que vous décrivez longuement, Anne-Marie Brisebard, sont fondés chez les bergers qui sont tombés dans le métier, sur des procédés empiriques de longue haleine.
Oui, il y a l'utilisation de certaines plantes médicinales. Il y a ce qu'on appelle de la petite chirurgie, parce que le berger, il est isolé, il est donc le vétérinaire de ses bêtes. Pour les repérer, par exemple, avant de sortir les bêtes du parc, il les fait lever. Ça a deux raisons. Un, les bêtes crottent, donc on récupère le fumier avant qu'elles sortent. Le fumier et la richesse. L'autre, c'est de voir le berger au comportement d'une brebis qui se lève. Il sait si elle est bien ou si elle risque d'avoir un problème. Alors il la marque avec un crayon gras ou avec pour la repérer et pour la suivre des yeux, pour être sûr qu'elle va pas s'isoler.
Mais c'est quand même curieux de soigner l'œil d'une brebis en lui mettant un fil, si possible rouge, dans l'oreille.
Alors,
ou
oui,
de traiter une brebis en entourant la queue d'un cordon.
Oui, alors ça c'est la méthode de dérivation en médecine qui a d'abord été connue des éleveurs, des bergers, et qui ensuite est passée au niveau humain, où il s'agit de tirer l'infection dans un endroit qui n'est pas dangereux. et on le fait pour les humains, mais seulement depuis le milieu du 19e siècle, alors que ça se trouve dans les manuels de bergerie, depuis les premiers manuels de bergerie.
Soin des espèces, soin des espaces, maintenant on a des bergers, même s'ils sont toujours assez nombreux dans les Cévennes à être de famille traditionnelle de berger, à avoir des comportements naturalistes. Ils regardent moins peut-être le paysage à la jumelle et puis davantage les insectes, l'herbe, le milieu naturel.
Les bergers que je connais étaient déjà des naturalistes parce qu'ils connaissaient toute la faune, même la faune furtive. Ils connaissaient les plantes, celles qui étaient bonnes, celles qui n'étaient pas bonnes, où il fallait pas envoyer le troupeau à certaines périodes. Et simplement, c'était des savoirs et des savoir-faire qu'ils apprenaient au fur et à mesure de leur formation, puisqu'ils commençaient très tôt, très jeunes, et qu'on leur apprenait tout ça sur l'alpage.
Alors harmonie, paix, c'est souvent la vision qu'on a, notamment dans les institutions de conservation du paysage, mais il y a le conflit entre les espèces sur les espaces. Brigitte Muret, que vous connaissez, bergère sur le Larzac, elle a été attaquée pour la deuxième fois par un loup. Quand je dis elle a été attaquée, elle croyait ce qu'on lui avait dit, le loup ne s'attaque pas aux hommes, mais là elle a eu l'impression que le loup ne faisait pas la différence entre les brebis et elle, et courant peut-être moins vite que ses brebis, elle s'est retrouvée entre les brebis et le loup, isolée, à la traîne par rapport au troupeau. Et elle a pensé, elle écrit ça dans Libé, je vais être son prochain repas.
Oui, je l'ai eu au téléphone récemment, après ce témoignage. Et elle voulait, il y avait un loup qui mordait alternativement deux de ses brebis. Et c'était la deuxième fois que son troupeau était attaqué, alors qu'elle le gardait, alors que normalement c'est des troupeaux du Larzac qu'on ne garde pas. Mais depuis la première attaque, elle gardait. Et les brebis ont couru plus vite et elle avait le loup sur les talons et elle avait beau crier, elle a cru sa dernière heure arriver. Et elle m'a dit que c'était terrible, quoi, et qu'elle ne pensait pas pouvoir être la proie du loup.
Alors on peut mettre des patous, c'est une solution. Mais alors le patou, conflit entre les espèces dans les espaces... Ouais. Il aime pas trop le randonneur.
Ben, il aime pas trop tout ce qui s'approche du troupeau, de son troupeau, puisqu'il est élevé dans le troupeau et qu'il se prend pour un membre du troupeau. Il fait pas la différence entre lui chien et les brebis. Et tout ce qui s'approche à deux ou à quatre pattes est un ennemi. Donc, même bien dressé, si le randonneur ne comprend pas qu'il faut qu'il s'arrête, il y a des patous mordeurs et des bergers qui se retrouvent au tribunal. Alors que pour être dédommagé en cas de brebis tuées, il faut qu'il ait un patou.
Brave métier, mais nouvelle galère. Et oui. Nouveau venu dans le métier
Les
nouveaux venus, nouveaux venus dans le métier du loup, certainement, oui. Mais nouveaux venus dans le métier du berger.
Alors, dans les Alpes, vous avez ce qu'on appelle les nouveaux bergers ou les nouvelles bergères, parce qu'il y a beaucoup de jeunes femmes qui sont des gens qui ont fait des études, sociologie, environnement, éthologie, et qui choisissent d'être berger d'alpage, berger salarié, donc la saison d'été, pendant un certain nombre d'années.
Et... quitte à prendre ensuite un billet pour la Nouvelle-Zélande, la Patagonie, ou le centre de l'Australie.
Oui, ou
mais dans les Cévennes, ça résiste davantage.
Alors dans les Cévennes, ça reste quand même pour l'instant. Il y a quelques personnes qui ont fait l'école du Merle, mais qui est l'école de transhumance. Mais ce sont surtout des gens de familles pastorales ou de la proximité des familles pastorales.
Merci à vous, Anne-Marie Brisbard. Chemin de transhumance est paru chez Delachaux et Niestlé.